cette recherche que je vais présenter aujourd'hui, c'est une recherche que j'ai entamée tout récemment pour ce colloque même. Et donc, je me suis aperçue que c'est un sujet beaucoup plus vaste que ce que j'ai pu pendant ce premier temps élaborer. Donc, la revue Moderne Hubei, Atelier Hongrois, qui a fait sa parution au mois de mai 1962, a joué un rôle fondamental sur la scène de l'avant-garde littéraire et dans les relations franco-hongroises. Alors, dans un premier temps, je vais présenter brièvement l'histoire de la revue pour centrer ma communication après sur l'œuvre de Tibor Pop et ses productions de poésie visuelle dans les années 1970-80. Et je vais faire une comparaison pour un peu montrer des co-influences avec la poésie de Jean Roche. Alors, la revue fut fondée à Paris par des jeunes immigrés fuyant les événements de 1956, parmi lesquels Mottal et Tibor Pop ont eu la plus grande influence sur le caractère et l'évolution de la revue. Alors, la première décennie que vous voyez à gauche fut marquée par la recherche de la revue de sa propre voix et préconisa ainsi la littérature comme étant pour soi, un peu en concordance avec les revendications de 68 en France dans le milieu littéraire, et surtout dans le groupe Tekken. Alors, dans la revue parurent les œuvres des écrivains en immigration, mais aussi celles des écrivains restés en Hongrie. Pourtant, selon Tibor Pop, la revue n'avait pas comme vocation d'être l'intermédiaire entre la Hongrie et la France, et par rapport aux autres revues parues en immigration, elle avait explicitement comme objectif d'être apolitique. Toutefois, les penchants artistiques, dès le début de sa parution, les références à l'œuvre de Koschek ont marqué la revue, surtout en Hongrie, comme mal vue, voire surveillée de près par les autorités hongroises. Alors, la revue devient l'organe de publication pour les auteurs restés en Hongrie ou dans les pays environ qui furent mal vus pour des raisons politiques. Ils donnent place ainsi, notamment au début de leur carrière, à Nemes Nagy Ágnes, Chapelinski János, Mésző Miklós, on consacre des numéros thématiques à Vörös Sándor, Koschek, Vörös Füstmihály, Szentpéter Miklós, Erdély Miklós, etc. Alors, les activités de la revue s'élargissent progressivement. Des livres sont publiés en édition spéciale. Ils organisent des publications, des rencontres d'écrivains, des ateliers, des soirées littéraires. Et le local de la revue accueille volontiers des écrivains hongrois de passage à Paris. La revue se dote l'objectif de publier des traductions, surtout, mais pas uniquement d'auteurs français, il faut le dire. Dans la première décennie, paraissent en traduction, entre autres, les poèmes de René Char, Jean Cocteau, Jean Pic, Henri Michaud, Ezra Pound, Denis Roche, Philippe Soupeau. Alors, progressivement, la littérature expérimentale et les beaux-arts vont gagner de l'importance dans la revue. Et l'un des objectifs de la revue devient la présentation des courants modernes de la littérature mondiale. Le prix Koschek fut fondé en 1972, qui fut décerné non seulement à des Hongrois, mais aussi à un Français, Philippe Donne, pour son travail de traduction de textes hongrois vers le français. Alors, ce qu'on trouve aussi dans la revue, c'est une forte activité de théorisation, entre autres à travers des traductions d'ouvrages théoriques paraissant dans la revue ou en livre, en numéro spécial. Ainsi, la revue consacre un numéro entier au structuralisme, où, en 1991 paraît Grammatologie de Derrida, où on pourrait citer encore l'article de Mottal, Postmodern Három Szögelési Pontok Riotára Vemmez Derrida. Donc, il y a cet objectif d'écrire de se placer dans les courants les plus mineurs. Pour couvrir l'effet des frais de l'édition de la revue, ainsi que pour s'assurer un revenu fixe, Portigol et Nordpal s'initièrent au métier de typographe. En 1965, ils fondèrent l'imprimerie Artis pour pouvoir imprimer eux-mêmes la revue. Mais après un certain temps, ils abandonnent cette imprimerie car ils ne reçoivent pas assez de commandes extérieures. Et ils décident d'y renoncer justement quand ils rencontrent un mécène roumain, Ion Cuchar, qui fut poète et propriétaire d'une imprimerie et qui leur permet d'utiliser cette imprimerie gracieusement pour imprimer la revue, ainsi qu'il leur donne du travail en temps partiel. Et donc c'est une période jusque dans les années 86, si je ne me trompe pas, où ils n'ont pas de problème financier pour faire vivre la revue. Ce travail de typographe, ainsi que l'approche sémiotique, influença le déplacement vers la poésie visuelle. Et donc c'est un peu plutôt la deuxième décennie, dans les années 70, qu'il y a un tournant vers la poésie visuelle. Comme vous voyez, ils fondent la revue française d'atelier, qui fut pendant sa première décennie un organe important diffusant la poésie visuelle. Plusieurs écrivains de renom ont publié dans la revue et y furent associés de passage, entre autres Bruno Montel, Jacques Roubaud, Claude Mounière, Michel Degui, Gérard de Cortance, Mitsou Renard, Jean Paris, entre autres. Et comme pour la revue Moderne Muret, la revue d'atelier publiait également des livres en tant que numéro spécial. Ce qui était particulier, que ce n'est pas la revue d'atelier qui figurait sur la couverture, mais comme numéro spécial de Moderne Muret, pour des raisons administratives. Alors, c'est chez d'atelier aussi, avec la collaboration de Jean Gérand, que fut publié pour la première fois dans sa typographie originelle, un coup de dé, jamais n'abolira le hasard, de Stéphane Mallarmé en 1980. Et ce déplacement vers la poésie visuelle devient de plus en plus marqué dans la revue, Moderne Muret aussi, sauf qui aura un impact considérable sur les poètes progressistes en Hongrie. Alors, il faut évoquer un peu le contexte des échanges avec la Hongrie de cette période communiste, parce que dans les années 60, la revue fut diffusée clandestinement seulement, passée en contrebande vers la Hongrie. Puis, on voit vraiment l'ouverture progressivement. Dans les années 70, elle va être petit à petit tolérée. Les poètes, on croit, vont recevoir l'autorisation pour être invités à des rencontres en France, ainsi que les membres de la rédaction au statut d'émigré vont obtenir un visa tous les deux ans pour visiter la Hongrie. Et à partir des années 1980, les échanges se faisaient désormais ouvertement, qui assurait par la suite que la revue puisse atteindre un plus large public. Et encore dans le contexte hongrois de l'époque communiste, la poésie visuelle avait un autre sens aussi, parce que son message codé, non littéral, convenait particulièrement à l'opposition silencieuse contre le pouvoir. Après la chute du mur de Berlin, et ici on revient à notre troisième catégorie, dans les années 80, à partir des années 80, en fait, et les changements politiques en Hongrie, suite à cela, la revue va localiser son siège à Budapest en 1992, ainsi qu'en 1996, ils vont céder la rédaction à des jeunes poètes hongrois. Et dans les années 80-90, on voit un déplacement depuis la poésie visuelle vers la poésie électronique, entre autres par l'influence de Tibor Pop, qui va fonder la revue À lire, la première revue poétique électronique sur disquette, ainsi qu'il va publier Distillons à un fond, que je ne sais pas si vous connaissez. C'est le premier programme au monde de générateur de poésie automatique, publié également sur disquette. Dans cette évolution vers la poésie électronique, se manifeste cette position d'avant-garde, de recherche d'innovation, de recherche de nouvelles formes, ainsi qu'une réflexion sur la poéticité qui n'est plus uniquement véhiculée par les mots. Alors, selon Tibor Pop, il faut faire la distinction entre la langue visible, le caractère phonique et la structure parlée écrite du langage, et la poésie visuelle s'intéresse surtout au langage perceptuel appréhendé par les yeux. Il existe plusieurs typologies pour regrouper la poésie visuelle, mais selon une théorie simpliste, il est possible de distinguer nettement trois catégories. La première serait la poésie textuelle, typographique, qui exploite les dents, la mise en page, la forme des poèmes et des vers, la typographie et toutes sortes de signes de ponctuation. C'est dans cette catégorie qu'il faut ranger un coup de dé de Mallarmé, ainsi que Vendix Vagek Ed, les textes invités 1 de Tibor Pop. Et la deuxième catégorie combine le texte et les images, et c'est dans cette deuxième qu'on peut ranger Vendix Vagek Ed, pardon, de Tibor Pop. Alors, ces deux qui sont là, on ne voit pas très nettement. Vient de Vendix Vagek Ed de Erhard, mais en fait on voit déjà la différence des deux catégories. Alors la troisième catégorie serait où le texte est tout à fait absent, mais cette catégorie on ne voit pas, on ne trouve pas vraiment chez Tibor Pop. Alors cette même évolution est visible sur les couvertures en fait des livres de Tibor Pop. Pour montrer l'évolution dans la poésie de Tibor Pop, il est intéressant de partir de la poésie de Derek Roche, aussi parce que j'ai travaillé sur lui pendant ma thèse, car je trouve qu'il y a une co-influence, une corrélation qui se dessine entre l'évolution des deux auteurs. Alors, il faut savoir aussi que Tibor Pop publia les traductions des séries de poèmes de Derek Roche. On en trouve dans 12 numéros de la revue Hongroise. Mais il consacra aussi un essai sur Denis Roche intitulé Kotoi et Pratatman, un grand principe poétique. Alors, dans ce dernier, il remarque que la poésie rochienne est basée sur la logique du logopeia, terme emprunté à Strafarm, dont Roche était le traducteur français et Tibor Pop en a fait aussi des traductions en droit. Alors, ce terme est défini de la manière suivante par Pop, je cite. Le logopeia, c'est la danse de la raison entre les mots, quand le poète utilise des mots non seulement en fonction de leur valeur sémantique, mais aussi en fonction d'un usage familier, prenant en compte l'environnement des mots, les limites connues du mot, les réminiscences et l'emploi ironique. L'esthétique des poèmes conçus dans un tel contexte est basée sur la tension intellectuelle plutôt que sur le pouvoir expressif ou l'effet musical du texte. Fin de citation, et c'est une traduction que j'ai faite pour moi. Alors, dans les allusions, les réminiscences, les jeux de langage, des formations, mots tronqués, les structures de la langue sont questionnées, mises en cause, déconstruites et renouvelées. Cette déconstruction se fait systématiquement chez le poète kenyan Derek Roche, et c'est pour ça que je trouve intéressant ce parallèle. Parce que sa poésie est envahie progressivement d'éléments visuels. Alors, il recourt au blanc, aux fautes de frappe, aux signes de ponctuation utilisés en dehors des règles, aux signes typographiques, phrases soulignées ou autres traits et lignes. On trouve des calligrammes. c'est une évolution qui va jusqu'à insérer des images dans son dernier recueil de poèmes intitulé Le Mécru. Alors, ces signes interviennent comme des éléments gênants dans la lisibilité du texte, comme des composants énigmatiques perturbant la signification. La publication complète de ces œuvres poétiques révèle l'exploration systématique que met en place le poète. Dès qu'une technique de brouillage de sens fonctionne, dès qu'elle est épuisée dans une série de poèmes, elle est ensuite remplacée par une nouvelle technique dans la prochaine série, quitte à ce que la technique précédente réapparaisse plus tard, légèrement modifiée. Alors, selon Christian Prigent, les éléments perturbant la signification dans l'écriture rochienne visent à dévoiler le spectacle de l'écriture. Le poète n'écrit pas, mais m'écrit, comme l'indique le titre de son dernier recueil de poèmes, paru en 72. Dans ce recueil, Denis Roche met fin à la poésie qu'il juge inadmissible. Il parle contre les paroles pour défigurer la convention, pour déjouer l'idéologie poétique qu'attend le lecteur. Le poème est secondaire, il est même ridiculisé parce qu'il ne dévoile que l'avidité du lecteur, sa fin de sens, son désir d'une intelligence symbolarde. Alors, là j'ai repris des termes de Christian Pigeon et de Denis Roche lui-même. Alors, malgré tout effort de déconstruction, ce geste que Jean-Marie Glaise désigne comme terrorisme critique, le lecteur attentif peut toutefois retrouver et reconstruire un sens caché, la structure soigneusement élaborée dans le but d'aménager le plaisir du lecteur, comme le dit Glaise. Alors, après la mise à mort de la poésie, Denis Roche se tourne progressivement vers la photographie, où il va explorer tout aussi systématiquement que dans son œuvre poétique, la question de la représentation, le pouvoir d'enregistrement, l'immédiateté et le rapport paradoxal de la photographie avec la réalité. Et il va même chercher à faire confondre la poésie et la photographie dans son poème et dans ses œuvres. Je vous en donne quelques exemples. Alors, sur ce point d'évolution de la photographie, son œuvre diffère du parcours de Thibaut Popp, qui même lors de l'utilisation des images, voire des photographies, va toujours garder le langage, des traces de langue écrite. Mais pour montrer le parcours de Thibaut Popp, je voulais vous montrer un peu cette comparaison avec Denis Roche. Et pour comprendre ce parcours, il faut faire un détour vers sa pratique de traduction. Il proclame être l'inventeur avec Philippe Dom de ce qu'il nomme traduction d'atelier. Alors je cite ici encore un passage. L'adaptation d'atelier consiste en un échange rigoureux d'informations sur la langue et dans laquelle le poème est écrit, la langue maternelle de l'auteur en ce qui me concerne le hongrois, dit Thibaut Popp, vers la langue d'accueil. Cette méthode que nous avons mise au point, Philippe Dom et moi, il y a une cinquantaine d'années, permet d'approcher au plus près des compétences respectives d'au moins deux acteurs passionnés, le poète et le récepteur, poète lui aussi, et de proposer la meilleure adaptation, le meilleur transfert de contenu possible dans l'espoir que le résultat soit une création dans la langue d'accueil autant que dans la langue d'origine. Fin de citation. Alors, chez Thibaut Popp, il s'agit d'un travail d'échange, d'une connaissance approfondie de la langue cible et la langue d'origine, de la langue comme matière poétique au niveau structural, logique et sémantique. Le traducteur ne va pas être fidèle au niveau des mots, mais au niveau du sens sensible, au niveau de l'effet provoqué dans le lecteur. Le traducteur est également véhiculeur d'idées, véhiculeur de ce logopéa dont il parle à propos de Denis Roche, d'une surface sensible, imprégnée et déformée par le poème matrice. Alors, d'où les titres de ces recueils, hein, en fait, Valdex-Vagec, texte invité, c'est, qui sont en fait les les textes d'autres qui influencent, qui s'imprègnent dans, qui sont incorporés dans le tissu de poème de Thibaut Pas. Alors, juste quelques exemples ici.
Est-ce que il faudrait arriver à la conclusion?
D'accord. Donc, je montre juste pour une question de forme. Ici, on a une traduction de Denis Roche par Thibaut Pas, et vous voyez comment la visualité entre dans le dans la lecture. Alors ici, on a Icône qui est un livre coécrit avec Claude Manon, que moi je trouve en fait symbole de son travail de traducteur. Je n'aurai pas le temps d'élaborer ceci. Et il y a une troisième catégorie que j'aurais voulu vous montrer, c'est des poésies qui sont des poésies photos à partir à base de photographies, mais j'arrive alors à la conclusion. Lors du colloque, il a été évoqué plusieurs fois que les relations entre l'Anglais et la France en matière littéraire ont amélioré les 15 dernières années. La revue Mireille contribue jusqu'à nos jours au rapprochement entre la Hongrie et la France, même sans en avoir la vocation confirmée. Et l'évocation vers la poésie visuelle, la poésie sonore, la poésie performance-action et la poésie électronique semble surmonter même la barrière du langage et de ce point s'intègre plus facilement dans un contexte international. Bien que suite à Fulcher Willem, on peut dire que les nouveaux médias nous définissent, nous modèlent et nous définissons à travers eux, il faut tout de même constater qu'il s'agit, en tout cas pour l'instant, d'une littérature qui a peu d'impact, pas seulement en ligne, mais en France aussi, elle n'est lue que par quelques lecteurs initiés. Et bien que nous sommes imprégnés dans la culture visuelle, et depuis le tournant iconique, la communication visuelle est de plus en plus maîtrisée. On se demande du sort de cette poésie visuelle, quel sera son impact dans 100 ans. Peut-être deviendra-t-elle plus aisée à comprendre et à s'approprier. Et merci beaucoup pour votre attention.